Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
François Pinet.
17h53 sur RMC, ravi de vous retrouver. Si vous nous rejoignez, on est avec Coach Courbis à la mi-temps du match entre Nice et Strasbourg. 1-0 pour les Strasbourgeois, but d'Ajorc, 9e but de la saison pour l'attaquant strasbourgeois dans une première période animée. On va tout de suite parier d'ailleurs en attendant la deuxième période.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Johan Guillet de la rédaction des Paris RMC. Rebonjour Johan.
Salut.
Qu'est-ce qu'on parie en deuxième période?
Déjà les cotes sèches, Strasbourg maintenant est très largement favori avec une telle première période. Hein. 1,52 la victoire des Alsaciens, 3,30 le match nul, 5,80 la victoire de Nice. Alors j'ai envie d'être très optimiste et de miser sur plus de 2,5 buts dans le match sans donner de vainqueur. Ça vous permet de doubler la mise. Mais en ce moment, j'ai souvent cette poisse de toujours avoir des matchs où le score reste le même en seconde période, donc je vous propose aussi le 1-0 pour Strasbourg qui est coté à 3,50. Coach,
Je vois dans un premier temps égalisation et score au final 2 partout.
Alors Nice qui marque le prochain but, c'est coté à 1,90 et coach partage mon optimisme. Enfin, coach, c'est coté le 2 partout et coté à 12. Et incroyable cote.
T'as un buteur là, Guiri par exemple, qui sortirait du banc? Non, tu l'as pas.
Alors pour là, il faudrait qu'il entre. En attendant, sinon on a Dolberg qui est à 3,05, Delors à 3,30, Diallo à 3,60.
Delors il rate jamais de face à face, coach. Hein. Jamais. Ouais. Hein.
Bah écoute, en tout cas là, c'est quand même en plus à un moment important.
Bon, d'autres
juste
paris.
Juste avant la mi-temps et à 1-0.
Ouais. Oh. Merci beaucoup, Johan. D'autres paris à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Les rendez-vous dans l'heure qui arrive à partir de 18h dans 6 minutes. Il y aura France-Slovénie. On suivra ça avec Nicolas Paul Orsi en Espagne. C'est le tour préliminaire des championnats du monde. Et on suit les Françaises, bien sûr, face aux Slovènes dans ce deuxième match de tour préliminaire. Et puis à 18h30, l'horaire est maintenu pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Avant-dernier Grand Prix de la saison. Peut-être le jour du sacre pour Max Verstappen. Alors que Lewis Hamilton partira en pole position. On sera avec Jean-Luc Roy, bien sûr, à 18h30 pour suivre en direct le départ de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Mais on va revenir, on voulait revenir sur l'information Claude Puel. Claude Puel mis à pied donc par l'AS Saint-Etienne suite à la défaite 5-0 à domicile par le Stade Rennais. On est avec Timothée Mémon qui est en train de commenter Nice-Strasbourg, mais qui est aussi, bien sûr, très proche de ce qui se passe chez les Verts.
Je commente avec mon téléphone entre les mains pour envoyer des messages et avoir confirmation. Tout d'abord, je suis en mesure de vous confirmer l'information. Tu l'as dit, l'information RMC Sport, c'est évidemment toute la rédaction qui travaille ensemble. C'est Loïc Tanzi qui nous a donné cette information en premier. Je vous la confirme. Effectivement, Claude Puel a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal de l'AS Saint-Etienne. La notion de mise à pied, je ne l'ai pas nécessairement, mais il n'est plus l'entraîneur de l'équipe Fagnon de l'AS Saint-Etienne. Et d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y a deux noms qui sont très clairement en pôle pour le remplacer, parce que évidemment la situation, elle n'est pas nouvelle à l'AS Saint-Etienne, donc forcément des plans bis et des plans terre étaient déjà dans les cartons. On parle soit de Pascal Duprat, soit de David Guillon. Ce sont les deux noms qui ont été évoqués. Alors Pascal Duprat, le côté un petit peu pompier de service, ce n'est pas la première fois. Il pourrait, pourquoi pas, prendre cette mission. Quant à David Guillon, il connaît très bien le club. Il avait été le directeur du centre de formation de Saint-Etienne.
D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Timothée. On te retrouve bien sûr pour la deuxième période de Nice-Strasbourg. On va prendre Hervé qui a fait le 32-16, supporter de Saint-Etienne. Salut Hervé.
Salut à tous.
Voilà, alors c'est une information RMC Sport, un peu elle mise à pied, donc qui n'est plus, ça a été confirmé par Timothée à l'instant, l'entraîneur des Verts. D'abord, sur cette information-là, quelle est ta première réaction?
Première réaction, moi j'étais un des derniers défenseurs du coach, parce que je trouvais que dans la situation qui était celle qu'il a connue depuis 18 mois, on avait de la chance d'avoir un coach chevronné comme lui, plus de 600 matchs au compteur sur un banc de Ligue 1, comme quoi l'expérience, ça suffit pas toujours. malgré tout et avec le résultat de cet après-midi, ça devenait très 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 compliqué de justifier son maintien en place et en poste de l'équipe première. Donc j'ai envie de dire maintenant avec un petit peu de recul, il était temps et il y aurait eu tout un tas d'occasions pour le démettre de ses fonctions, notamment le triste record de défaites consécutives la saison passée, le début de saison vraiment catastrophique, la 20e place qu'on occupe depuis deux mois maintenant. Voilà, il était temps, mieux vaut tard que jamais. On va se contenter de la prise de décision maintenant. Et puis pour enquiller sur le deuxième élément, à savoir le remplaçant, les deux noms que vous donnez.
Ouais, Duprat ou Guillon.
Moi j'aurais quand même ma préférence qui irait vers David Guillon. Duprat, c'est un petit peu du réchauffé dans cette mission-là de commando. David Guillon, moi j'y verrais plutôt une vision à moyen terme. Pour Pascal Duprat, je respecte tout à fait ce qu'il a fait, que ce soit à Toulouse, à Evian-Tonon, mais pour moi ça serait vraiment une vision sur du court terme. Donc au moins avoir une petite vision à moyen terme avec David Guillon, qui me semblerait, en plus il connaît la maison comme vous l'avez dit, donc moi ma préférence irait plutôt à David Guillon, vu que coach Courbis apparemment ne veut pas reprendre devant.
Je sais pas, peut-être que si tu lui demandes gentiment, coach.
Ah ben moi je lui demande gentiment, je fais ma lettre au Père Noël, hein, coach, hein, y a pas de soucis, hein.
Ben non, mais l'idée d'avoir un pompier de service, c'est peut-être ce qu'il faut à Saint-Etienne, l'idée de Pascal Duprat.
Ouais, mais je suis pas sûr qu'avec l'effectif qui est en place, un côté commando pompier, ouais. Je suis des gars comme Cazeri, des gars comme Boudbouze, des gars comme Colo, je suis pas certain qu'en termes d'effectifs et de nature de joueur, je suis pas certain que le côté commando ça aille. Là, avec
ce que
eux,
je te propose, Hervé, c'est de poser cette question à coach Courbis, qui connaît quand même aussi ces missions-là par cœur et qui sait aussi sauver des clubs parfois en difficulté. Coach.
Mais je pense déjà que la chance qu'il y a pour les Stéphanois, c'est qu'il est fort, fort possible qu'on n'ait pas besoin de 50 points pour se sauver. Et ensuite, nous sommes dans une période et dans une époque où il y a le match de barrage. Donc, se sauver dans un premier temps, c'est envisager les barrages. Et pour envisager les barrages, mettre deux équipes derrière, ça me paraît pas être quand même la mer à boire, puisque l'effectif de Saint-Étienne, je le regarde de A à Z, c'est un effectif qui pour moi doit avoir la possibilité de mettre deux trois équipes derrière cet effectif.
Tu vois, Hervé, t'es rassuré par les propos de coach, vous n'allez pas être dernier toujours cette saison avec l'effectif que vous avez. Hervé, on l'entend plus.
Ah,
Hervé, si, vas-y, on t'entend.
Si, je suis là. Donc oui, rassuré, comme le dit coach. Après, ce qui nous sauve pour l'instant, c'est des écarts qui sont très faibles. On est à 4 points des premiers non relégables, voire même de la 14e ou 13e place. On a des écarts très faibles. Et c'est ce qui nous sauve pour l'instant, bien évidemment. Les deux équipes qu'on pourrait laisser derrière, les deux seules victoires qu'on a, c'est contre les deux promus, Clermont et Troyes, qui eux aussi sont dans des périodes très compliqué, donc
mais tu peux rajouter Metz, hein.
Oui, ah, Metz, tout à fait, qui est
Bordeaux.
Après voilà, pour revenir aussi sur le côté Puel, est-ce que c'est le bon moment? Moi je pensais vraiment qu'après la première victoire on allait pouvoir enchaîner comme le font les hommes d'Air Zakarian à Brest, c'est-à-dire une victoire déclic et derrière enchaîner. Alors eux c'est exceptionnel ce qu'ils font, je pensais qu'on allait être cette équipe là Bon, ben, force est de constater que non, c'est pas nous qu'il faut un choc.
Mais bon, ça se joue à pas grand chose quand même ces dernières semaines.
Hein. Ah oui,
tu as les tirs sur le poteau.
Enfin, pas aujourd'hui, excuse-moi. Voilà, tu prends 5-0, tu fais balader.
Un record d'Europe de tirs sur les poteaux.
Complètement.
Le dernier match à Brest qui en ce moment est irrésistible.
Tu perds
1-0, enfin, de façon quand même, appelons ça anormal. Tu fais pratiquement un très bon match et jeu égal contre Paris Saint-Germain avec une expulsion. Bon, allez. Bref. Donc si tu veux sur ces derniers temps, il y a eu déjà Claude Puel qui a été sauvé par un but à la dernière minute. Je crois que c'est contre Lyon. Après un 5-0, je pense que c'était une obligation pour les dirigeants.
Voilà, on rappelle un Puel mis à pied par l'AS Saint-Etienne. C'est l'information RMC Sport de cette fin d'après-midi. Merci beaucoup Hervé. À bientôt. Tu reviens quand tu veux sur RMC. À très bientôt. Un petit coucou à Nicolas Paolorsi. Salut Nico.
Salut coach. Salut François, salut à toutes et à tous.
France-Slovénie, c'est du hand féminin et ce sont les championnats du monde, tour préliminaire.
Exactement, on est à Granollers, à 30 km de Barcelone. Deuxième match pour les Françaises contre la Slovénie. Elles ont remporté le premier de 10 buts, 30-20 face à l'Angola. C'est un match important. Alors pourquoi? Je vous rappelle la modalité de ce premier tour. Trois équipes sur quatre sont qualifiées. Donc là, il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour la France. Mais tu conserves tes points acquis contre les équipes du premier tour quand tu te qualifies pour le tour principal. Donc ce sera important de battre les Slovènes qui risquent de se qualifier avec nous pour la deuxième phase. 3 minutes de jeu, les Françaises sont bien entrées dans le match. 2-0 pour la France.
Très bien, on va suivre ça bien sûr avec la reprise aussi de Nice-Strasbourg. Restez bien avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC Intégral Foot,
François Pinet.
Il est 18h05, vous êtes sur RMC dans 25 minutes. Événement à suivre, le départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite avec la Formule 1, c'est l'avant-dernier Grand Prix et peut-être le sacre pour Max Verstappen. Direction tout de suite l'Allianz Riviera, c'est reparti pour la deuxième période entre Nice et Strasbourg. Clément Brossard, Timothée Mémon.
On joue depuis 2 minutes à l'Allianz Riviera dans cette seconde période, 1-0 pour le Racing Club de Strasbourg suite au but de Ludovic Ajorc, donc à la 21e minute, carton jaune sorti à l'instant contre Jean Eckner Bellegarde, c'est le 3e carton jaune contre les Strasbourgeois. L'occasion de vous dire que Ibrahima Sissoko, en encaissant ce carton jaune en première période, sera suspendu pour le prochain match, alors soit en Coupe de France face à Valenciennes, sinon ce sera le match d'après face à l'Olympique de Marseille, me semble-t-il, à vérifier. En tout cas, il y a eu deux changements dans les rangs niçois. Les murs du vestiaire azuréen ont dû trembler clairement, et Flavius Daniluk a été remplacé par le capitaine Danté, qui a montré que quand il était sur le banc, et bien c'était bien plus compliqué pour ces Niçois. On l'avait déjà la saison dernière avec cette longue blessure. Et Youssef Attal également entré en jeu à la place de Jordan Lautomba.
Et très clairement, Christophe Galtier sanctionne les deux joueurs les plus faibles de la première période. Daniluk, à l'image de son compère de la défense centrale, a été très en difficulté. Jordan Lautomba, il a failli provoquer un pénalty. Offensivement, ça a été très compliqué. Il y a la volonté de bousculer un petit peu cette équipe et de rebattre un petit peu les cartes pour Christophe Galtier. Bonne nouvelle pour les Niçois. En revanche, Mario Lemina a pu se relever après ce gros contact avec Jean Reckner Bellegarde.
Il s'échauffe, il s'est échauffé déjà depuis la demi-heure de jeu hein, en première période, et il est sur le côté en train de faire quelques foulées avec notamment Evan Guessan, lui qui revient de blessure, le buteur de ce match fou contre Olympique Lyonnais, auteur du troisième but synonyme de victoire, et puis Kefren Thuram également.
Sincèrement, je suis surpris. Il y a peut-être un truc qui nous échappe.
Il ne soit pas rentré plus tôt, une légère blessure.
Non, Gouiri, je sais pas.
Non, il n'y a pas de blessure qui filtre. Contre le Paris Saint-Germain, c'était un choix, alors qu'on va suivre cette frappe qui part loin au-dessus de la cage de Walter Vitesse, a été signé Adrien Thomasson. Mais c'était un choix déjà de le mettre sur le banc de touche face au Paris Saint-Germain. Ce qui est reproché à Amine Gouiri par Christophe Galtier, c'est qu'il ne fait pas assez d'efforts sur le plan défensif.
Ah voilà.
Qu'il y a un problème de repli et qu'il est évidemment en réussite puisque c'est le meilleur buteur niçois depuis le début de la saison avec 8 réalisations. Mais que dans le collectif, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est là-dessus qu'insiste Christophe Galtier, et c'est pour ça qu'il a décidé d'aligner Andy Delors, qui lui se bat sur tous les ballons, et Casper Dolberg, qui a été très intéressant dans le jeu collectif et dans le repli face au Paris Saint-Germain mercredi.
Attention tout de même, François, j'entendais ton A l'air de dire voilà, il y a quand même bien un problème, il y a polémique. C'est aussi une question de profil de joueur. Ce que dit Clément, c'est vrai, il fait moins d'efforts, mais il marque énormément. Il n'y a pas d'entraîneur qui se passe d'un joueur qui marque énormément. Simplement, c'est face à cette équipe de Strasbourg, il lui a semblé plus opportun d'avoir des joueurs un petit peu plus physiques qu'Amine Gouiri plutôt que.
D'accord.
Plutôt,
non, voilà. Mais moi je pensais que Gouiri était le meilleur depuis le début de la saison. Côté niçois offensivement, et c'est dommage de s'en passer, voilà ce que je voulais dire.
Ouais, il semblerait que voilà, je pense que Christophe Galtier voit la même chose que toi. Christophe Galtier voit la même chose que toi, mais il lui semblait que face à Strasbourg, il était plus opportun de mettre d'autres profils.
Ça fonctionne bien d'ailleurs.
Moi je donne son sentiment de départ.
C'est pas facile de perdre 3 matchs à domicile d'affilée.
Donc non, mais se passer de Gouiri, c'est osé.
Non, mais surtout que Camille Gouiri, évidemment, le prend aussi un petit peu moralement. Alors, mal, je sais pas, mais ça le touche de savoir qu'il est le meilleur buteur niçois et qu'il n'est pas aligné au coup d'envoi. Donc, ça, c'est une certitude de la part de l'international espoir. Maintenant, il a pris note de ses remarques de la part de son coach. Et c'est vrai qu'il est aligné une fois dans l'axe, une fois sur le côté gauche. Il est beaucoup plus performant lorsqu'il est aligné dans l'axe que sur le côté où là les efforts lui sont un peu plus demandés. Et on verra s'il a pris ses consignes en considération et s'il fait un peu plus d'efforts sur le plan défensif. Mais pour l'instant, il s'échauffe, il n'est pas encore entré. Amine Gouiri, 50 minutes de jeu, toujours un but à zéro pour le Racing Club de Strasbourg.
Allez, on après ce qui rentrera à une demi-heure de la fin.
À l'heure de jeu.
À l'heure de jeu, voilà. On verra ça. Les paris sont pris.
On suivra ça. 1-0 donc pour Strasbourg à Nice. On vous l'a dit, on va suivre également le handball féminin avec ce tour préliminaire des championnats du monde. Nicolas Paolorsi est en Espagne. France-Slovénie, deuxième journée.
Et ça se passe très bien pour nos Françaises. 9 minutes de jeu, 4-0 pour les Bleus qui sont monstrueuses en défense. La charnière centrale, Alison Pino, Béatrice Edwige, Grace Zahadi, Estelle Nzeminko. On est en train de broyer les Slovènes en défense. Du coup, on a des ballons rapides à jouer en contre-attaque, en montée de balle. Et on termine à 6 mètres auprès. Le ballon pour les Slovènes avec ce Yago, la sortie du pivot pour Anna Gross, la meilleure buteuse de la Ligue des Champions qui connaît très bien les clubs français puisqu'elle a joué à Metz et à Brest. Et on défend une nouvelle fois très bien face à Anna Gross. C'est un très bon début de match des Françaises. 9 minutes de jeu, 4-0 pour les Bleus.
Défense monstrueuse, ça doit faire tout drôle à Nico Paolorsi quand même. Hein.
Ah ouais, j'ai pas l'habitude de ça moi. Avec les Girondins, c'est sûr
c'est pour
que,
ça qu'il est parti s'exiler en Espagne. Là.
Ah bah complètement, petite hydrocution là. Jouer une vraie défense, ça me fait bizarre.
Bah, tu devrais leur donner des conseils quand tu vas revenir, quand tu vas rentrer. Ça peut les aider.
Je vais essayer.
On va aller voir ce soir d'ailleurs les Girondins contre Lyon, hein, 20h45, dernier match de la 17e journée. En attendant, on suit Nice contre Strasbourg, donc à l'Allianz Riviera. Et pour l'instant, les Niçois, c'est un tout petit rythme alors qu'ils doivent égaliser face à Strasbourg.
Ouais, 51e minute de jeu. Les Niçois qui partent à l'attaque avec Andy Delors là, qui se défait de son vis-à-vis, va pouvoir centrer au second poteau, alerter peut-être Youssouf Attal, mais ce ballon est beaucoup trop court malgré le tacle de Youssouf Attal à retardement d'ailleurs.
Il a le pied haut, Youssouf Attal.
Mais
attention,
c'est quelle couleur de
cette intervention, parce que il y a trop d'engagement de la part de Youssef Attal qui en plus va pas forcément peut-être soigner son cas en allant faire du trash talking sur le joueur qui est au sol.
Anthony Cassi qui est au sol.
Ouais, Anthony Cassi va reprendre sa place. Monsieur l'arbitre est venu aux nouvelles et il va vraisemblablement pas sortir de carton. C'est vrai qu'il y est allé avec beaucoup d'envie pour contrer ce ballon, mais surtout on a eu l'impression qu'à la fin de son geste les pieds sont montés très haut.
Alors il ne touche pas hein, mais
ouais, finalement c'est plutôt Cassi qui lui met une légère semelle, mais bon.
Si non, mais il y va quand même.
Si je prends le fusil que je te tire dans la tête et que tu te baisses, je te tue pas.
Ah, le geste en tout cas, il y a peut-être un excès d'engagement, mais c'est vrai qu'il le touffe pas sur le coup. Youssef Attal, les Strasbourgeois sont repartis avec ce long ballon.
Le fais pas, coach, s'il te plaît.
Non, bah non.
Mais non, il n'y a pas de fusil.
Je suis pas rapide, moi, surtout. Évite de faire ça, s'il te plaît.
Il n'y a pas de fusil dans les coins.
Bah, tant mieux. Strasbourg. Et donc, pour l'instant, effectivement, on a vu l'engagement d'Attal. Il faut effectivement que ça se réveille du côté de Nice. Peut-être que ça passe par des gestes parfois un peu limite.
En tout cas, on a vu l'envie de Justin Kluivert qui est venu courir pour récupérer le ballon dans les mains de Mats Cels après qu'une position de hors-jeu soit donnée contre Habib Diallo, l'attaquant strasbourgeois. Les Niçois qui vont repartir ballon au pied pour reconstruire le jeu avec le capitaine Danté qui a tant manqué en première période.
Le ballon dans la profondeur, la tête de Attal qui est montée au-dessus, qui fait preuve d'envie hein, depuis qu'il est rentré sur la pelouse, avec Delors qui se bat dans le milieu de terrain et qui va perdre ce ballon finalement au profit de Bellegarde. La récupération niçoise, ils sont un petit peu mieux quand même les Azuréens dans cette seconde période, avec Lemina qui cherchait la profondeur. On ne sait pas exactement qui il cherchait, mais absolument aucun attaquant niçois dans cette zone, pas même un appel dans cette direction. Mats Cels va pouvoir relancer court avec Jean-Rechner Bellegarde. 55 minutes de jeu, les Strasbourgeois mènent toujours 1-0. On regarde la première période, ils pourraient mener 2 ou 3-0, mais Nice reste en vie dans cette rencontre avec peut-être la récupération là sur le côté gauche pour Melvin Barque qui va être accroché. Toujours ouais. Ce score d'1-0 pour Strasbourg face à Nice.
J'ai retrouvé une petite stat à la pause, messieurs, qui va vous intéresser certainement. Avant le match face au Paris Saint-Germain, pour vous donner une idée de savoir si ce résultat est surprenant ou pas de la part de Strasbourg, avant le match face au Paris Saint-Germain, Nice était la 16e équipe de Ligue 1 si on compte que les premières périodes. Voilà, ça montre aussi que c'est très difficile pour Nice de rentrer dans une partie cette saison.
Oui, mais en revanche, ils arrivent parfois à faire des remontées fantastiques en toute fin de rencontre.
Nécessairement, s'ils sont quatrième aujourd'hui, c'est qu'ils doivent avoir des meilleures deuxièmes périodes. Ouais, effectivement, statistiquement. Ouais, d'ailleurs, on voit une meilleure deuxième période, pour être franc.
Quand il arrive ça,
c'était nu.
Quand il arrive ça, une équipe, souvent les commentaires sont anormaux et dangereux. Presque, ça devient une stratégie. Tu vois, j'ai souvent entendu dire la culture de la gagne. La culture de quoi? Si tu marques à la 93e minute, eh ben c'est que tu as cru jusqu'à la 93e minute, mais que tu as de la réussite. Il vaut mieux quand même marquer à la 75e.
Oui, c'est pas une stratégie de marquer dans les arrêts. Ben, ma foi. Bien d'accord.
56e minute, 1-0 pour le RC Strasbourg face à Nice. Il y aura peut-être un coup franc à suivre, Timothée, sur le côté droit.
Allez,
pour les Niçois.
C'est un corner très ouvert là pour les Niçois, puisque c'est sur le côté droit, à 10 mètres du poteau de corner, pour le frapper soit Steng, soit Kluivert. Les deux Néerlandais vont se décider l'un l'autre. Ce sera vraisemblablement plus logiquement pour le pied gauche de Calvin Stengs, mais pour le moment, il n'a pas été grandiose sur les coups de pied arrêtés. Allez, Stengs qui met ce ballon au second poteau, c'est pas mal cette fois. Et ça va sortir des limites du terrain. On cherchait la remise de la tête de Dante, mais il est peut-être pas encore chaud, le capitaine brésilien qui est entré à la mi-temps. 56e, 1-0 pour Strasbourg face à Nice.
Ah, tiens, plus tirant, il stabilise derrière et qui marque aussi de la tête, sincèrement.
On revient dans un instant. Strasbourg qui mène donc toujours face à Nice pour suivre la fin de cette deuxième période et pour parler aussi Formule 1 dans un quart d'heure, le départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite. A tout de suite.
RMC Intégral Foot.
François Pinet.
Avec Coach Courbis, ici les 18h19 sur RMC. Je vous rappelle que dans 20 minutes maintenant, coup d'envoi dans 10 minutes, le départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite que l'on va suivre bien sûr en direct sur RMC. Avant-dernier Grand Prix de la saison avec Lewis Hamilton en pole position. Le foot, l'Allianz Riviera, Nice est toujours mené par Strasbourg, Clément Brossard et Timothée Mémon.
À l'heure de jeu, 1-0 pour les Racing Men suite au but de Ludovic Ajorque en première période face à des Niçois en grande difficulté. Une nouvelle fois sur leur pelouse de l'Allianz Riviera après une défaite face à Montpellier, une nouvelle défaite à domicile face à Metz la semaine dernière. Ils sont en train de connaître qui sait une troisième défaite de rang à l'Allianz Riviera sans marquer. Ce serait la première fois de l'histoire de Nice que Nice enchaîne trois matchs à domicile sans marquer et en perdant. Voilà la situation difficile de ces Azuréens qui ont parlé beaucoup de haut de tableau, de première, de deuxième place. Honnêtement, quand je regarde le classement, je vois plus Lens et Monaco se rapprocher de la quatrième place de Nice, même si Casper Dolberg arrive dans la surface de réparation, peut se présenter face à Matsès, la main ferme du gardien strasbourgeois pour repousser la frappe puissante de l'attaquant danois. Ouais, solide sur ce coup Matsès.
Je suis d'accord coach, parce que là il est bien resté sur ses appuis, il est resté debout, il a fermé son angle, il a mis une véritable mine Casper Dolberg, et ce caramel là il a su le stopper d'une main extrêmement ferme. Le terme est bien choisi par Clément. Il y a un instant de corner à suivre, 61e minute de jeu. Justin Kluivert pour mettre ce ballon dans la surface de réparation, ce serait pour une tête strasbourgeoise. Une seconde, un ballon qui va revenir vers Youssef Attal qui peut prendre le temps de développer peut-être encore quelque chose avec Mario Lemina qui va essayer de passer dans l'axe. Il ne démérite pas Mario Lemina dans cette rencontre. La petite déviation avec Casper Dolberg, oh, qui va buter sur Matsels. Il y avait une position de hors-jeu, et quelle astucieuse tentative de remise en aile de pigeon de la part d'Andy Delors.
Hors-jeu, mais il avait encore arrêté.
Oui. Celle s'avait arrêtée. Effectivement, il était hors jeu. Casper,
on a passé l'heure de jeu. Coach, toujours pas d'Amine Gouiri sur la pelouse.
Et Melvin Barr en difficulté avec son genou gauche. Hein. Il a arrêté le jeu tout à l'heure parce qu'il était en souffrance. Il est de nouveau dans le rond central, assis sur la pelouse.
Il a pris une béquille tout à l'heure de la part de Frédéric Gilbert.
J'espère
derrière
que ce
le
soit
genou.
Un peu plus que ça.
Alors, en tout cas, c'est ce qui l'a fait tomber au sol. La civière va entrer sur la pelouse. Mais c'est vrai que ça fait deux fois qu'il se retrouve au sol, Melvin Barr. Il semble ne pas pouvoir continuer cette partie. Il y aura certainement des ajustements. On a vu Lucas Dacuña tout à l'heure enlever sa chasuble et est prêt à rentrer, finalement renvoyé à l'échauffement, mais il y aura des changements.
Et Camara,
véritablement,
est blessé.
Camara n'est pas blessé, non, il peut éventuellement rentrer à la place de Melvin Barr. Des changements à venir puisque Khéphren Thuram va faire son entrée en jeu, mais avant tout il y a des changements dans les rangs strasbourgeois avec l'entrée de Perčić à la place de Sissoko au milieu de terrain, lui qui je vous rappelle avec ce carton jaune sera suspendu pour le prochain match du Racing Club de Strasbourg. Donc Sanjin Perčić qui va rentrer en jeu, et puis côté niçois 63e, donc lors des changements tactiques pour Julien Stéphan et pour Christophe Galtier, c'est Khéphren Thuram qui va rentrer en jeu alors que Melvin Barr sort sur civière, touché au genou. Ouais, coach.
Quand on parle de duo dans l'organisation de Galtier, le duo Barthes et Camara dans la première partie de la saison, je trouvais ça très très bien.
Ils sont tous les deux sur le côté gauche, Barthes et Camara.
Ouais, ben oui.
Camara était devant Melvin Barr, avec l'association sur le côté gauche.
Ils jouaient ensemble du même côté.
Ouais, c'est vrai qu'ils se trouvaient relativement bien.
Ils se relayaient, je trouvais ça pas mal du tout.
On va donc faire ce changement. On va passer vraisemblablement à une défense à 3 côté niçois avec Lemina, Jean-Claire Todibo et Dante. Sur le côté droit, Youssef Attal. Et probablement qu'on va demander à Justin Kluivert de jouer les pistons, même si pour le moment c'est Dante qui est venu se positionner arrière gauche. gauche, j'en doute quand même. Probablement que Kluivert qui va devoir jouer les pistons. Le petit coup de physique de la part de Justin Kluivert pour conserver ce ballon devant Perrin. La récupération, elle est toujours niçoise avec Dante toujours dans cette position d'arrière gauche. En tout cas, le ballon va circuler jusqu'à Rosario qui s'appuie sur Kefren Thuram. Kefren Thuram pour accélérer avec les vivas de l'Alliance Riviera, très peu fourni ce soir pour aller voir pourtant le quatrième du championnat. Et une équipe qui, même si elle a des ratés ces derniers temps, reste en haut du classement. Un ballon qui va revenir vers Justin Kluivert et la sortie du Strasbourgeois qui a sorti le ballon. C'est bien joué. La récupération d'histoire, ce sera avec une faute. Et après 65 minutes de jeu, on va en rester à ce but d'Ajorque à la 21e. Strasbourg mène 1-0 sur la pelouse de Nice.
1-0. Donc pour les Strasbourgeois, je vous rappelle aussi l'info foot de cette fin d'après-midi avec Claude Puel qui n'est plus l'entraîneur de la Saint-Etienne. Et tu nous le disais, Timothée, deux noms pour le remplacer en cette fin de saison, Pascal Duprat et David Guillon. On suit ça, bien sûr.
Il faut se méfier sur la temporalité du remplacement. Est-ce que ce sera fait tout de suite? Il y a aussi une possibilité interne à Saint-Etienne pour un match ou deux, par exemple pour aller jusqu'à la trêve. Elle serait Razik Neder associée à Laurent Huard.
D'accord. Le handball féminin, les championnats du monde avec Nico Paul Orsi. Les Françaises vont bien toujours contre la Slovénie?
Les Françaises vont très bien. Elles sont très sereines. Il reste un peu plus de 8 minutes dans cette première mi-temps. On mène de 6 buts, 9-3. Les Slovènes cantonnées à 3 buts en 22 minutes quasiment. C'est très très rare au hand. Et Laura Glosor, la gardienne, est à 70% d'arrêt. Elle a sorti 7 ballons sur 10 shoots. C'est vraiment monstrueux ce que sont en train de proposer les Françaises en défense. La balle dans les mains des Slovènes avec Ljajic qui va essayer de trouver son ailière gauche. Mais nouvelle perte de balle parce qu'on est trop agressif en défense. La montée de balle des Françaises avec peut-être Mélino Grandi qui va trouver une solution à 6 mètres. La temps fort de Niakate pour Estelle Nzeminko. On va poser le jeu. On mène de 6 buts. Il reste 8 minutes.
Alors une blessure, c'est ça qu'on entend là.
J'ai un doute, mais Attal est sorti sur Thomasson et il lui a mis une grosse semelle sur le pied. On a fait rentrer les soigneurs et il y a un petit peu d'inquiétude, un gros attroupement autour d'Adrien Thomasson. On espère qu'il va pouvoir se relever, lui l'élégant, le soyeux joueur de Strasbourg.
Attal y va avec la semelle.
Elle a pris carton jaune, ça serait pas étonnant de voir la couleur du carton changer.
Il est rentré avec l'écrou. Youssef Attal, mais dans le bon comme dans le mauvais sens.
S'il va voir les images.
Ça peut changer de couleur. Mais ça part d'une erreur de communication une nouvelle fois entre Jean-Claire Todibo et Youssef Attal. Habib Diallo qui s'insère entre les deux défenseurs. Le ballon revient sur le côté gauche. Et puis, donc, Youssef Attal qui
s'essuie. Important de signaler que ce sera un coup franc et pas un pénalty parce qu'on était juste sur la ligne de la surface de réparation.
Alors, on va sur la décision de l'arbitre, sur Attal. Oui, coach, un mot.
Dommage pour le Strasbourgeois qu'il n'y a pas l'INA.
Ah oui.
Il y a quand même des bons joueurs de ballon capables de frapper ses coups francs. Je pensais notamment à Thomasson, mais je sais pas si il se prend en capacité de tirer ses coups francs.
On va suivre bien sûr la couleur du carton, vous nous tenez au courant bien évidemment, mais on va aller au Grand Prix d'Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah avec Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, salut François, salut coach, bonjour à tous.
Alors
salut.
Avec ce Grand Prix, cet avant-dernier Grand Prix de la saison, juste avant d'en parler et de vivre avec toi le départ bien sûr de ce Grand Prix très important, un mot de ce qui s'est passé en F2 tout à l'heure avec Théo Pourchaire, le Français, qui a été victime d'un accident. Sur les images, c'est assez impressionnant. Accident avec Enzo Fittipaldi, le Brésilien. Et les nouvelles sont rassurantes quand même pour Théo Pourchaire.
Oui, heureusement, on va commencer par là. Les deux pilotes ont été immédiatement emmenés à l'hôpital le plus proche. Tu sais que les hôpitaux sont mobilisés quand il y a un Grand Prix comme ça. Les services d'urgence notamment, on a évacué les pilotes par hélicoptère. Et les premières radios sont tout à fait rassurantes, heureusement. Les pilotes ont reçu un choc très violent. D'ailleurs, il faut préciser qu'a priori, c'est plutôt pour Enzo Fittipaldi qu'on était inquiet. Parce que malheureusement, je me dois d'évoquer un accident tragique lors du départ du Grand Prix du Canada 1982. Où Didier Pironi, avec sa Ferrari, avait calé lui également sur la deuxième ligne et Riccardo Paletti, le pauvre pilote italien, était venu s'empaler littéralement dessus et avait été tué. Donc effectivement, dans ce genre de situation, la sécurité a évidemment énormément progressé depuis 40 ans et on est ravis que les deux jeunes pilotes aillent bien.
Effectivement, alors on va parler maintenant de ce Grand Prix de Formule 1, avant-dernier Grand Prix, je le disais, peut-être jour de sacre pour Max Verstappen. Alors il y a plusieurs possibilités pour que le Hollandais soit sacré, on ne va pas rentrer dans tous les détails, vous pouvez aller voir ça sur rmcsport.fr. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être une belle bataille au départ, puisque c'est Lewis Hamilton qui est pole position. Verstappen est deux places plus bas.
Et oui, puisque Verstappen était en mesure de signer cette pole position lors de son dernier tour très rapide. Et puis il s'est raté. Il a reconnu honnêtement que c'est une erreur de sa part dans le dernier virage, le 27e virage de ce long tracé de 6 km 174 que les pilotes vont parcourir à 50 reprises. Et il a tapé le mur. Et heureusement, il n'a pas endommagé sa boîte de vitesse. En tout cas, du côté de chez Red Bull Honda, on n'a pas changé la boîte de vitesse. Mais il a perdu évidemment le bénéfice de son effort puisqu'il était en avance de plus de 2 dixièmes après les deux premiers secteur sur la pole d'Hamilton. Ça fait donc Hamilton devant Bottas, autant dire qu'il a un mur Mercedes devant lui, Verstappen, qui s'élancera depuis la deuxième ligne de la grille de départ sur la troisième place. Alors, il faut également préciser que la piste est extrêmement poussiéreuse, elle est toute neuve, hein. Bien sûr, elle n'a jamais été utilisée, et donc le fait de partir depuis le bon côté, donc les pilotes impairs, entre guillemets, Hamilton, Verstappen, Perez, Norris, etc., vont normalement démarrer mieux. Est-ce que Verstappen va être en mesure de prendre l'avantage sur Bottas dès les premiers mètres? On va le savoir très rapidement. À signaler qu'il y a eu beaucoup d'accidents en Formule 2 lors des trois courses, et notamment un carton dans le premier virage avec quatre pilotes impliqués. On croise les doigts pour que ça ne soit pas le cas en Formule 1.
On va suivre ça, bien sûr, ce départ du Grand Prix en direct avec toi, Jean-Luc, avec Coach Courbis, qui, figure-toi, un avis sur la fin de saison. Coach, tu as une vision.
Un avis, c'est-à-dire que je suis ça évidemment comme beaucoup de personnes avec beaucoup d'attention, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu
aussi peu d'écart,
une lutte comme d'écart. Ça. Mais là, on fait tous les calculs sur comment Verstappen va être champion. Ouais. Mais moi, je vois Hamilton être champion par rapport à ce qui se passe ces dernières semaines. Et la sortie de Verstappen, est-ce que ça ne serait pas un peu trop de pression? Parce qu'il est obligé d'en faire un petit peu plus que ce qu'il faudrait en faire, c'est ce que je pense. Donc pour moi, je serais très content pour Verstappen s'il était champion, mais je vois une fois de plus Hamilton.
Voilà, Jean-Luc.
C'est un pronostic, effectivement, et qui se respecte. En tout cas, Hamilton a fait ce qu'il fallait avec cette pole. Et puis, je l'ai dit, épaulé par évidemment Bottas, qui va tout faire pour essayer de retenir Verstappen. Et puis, évidemment, Hamilton, il reste sur une série de succès, hein, deux succès consécutifs récemment, lors du Grand Prix du Brésil, avec ce moteur et cette Mercedes absolument irrésistible. Et puis, le Grand Prix du Qatar, sur un circuit. Il faut signaler d'ailleurs que Hamilton a toujours signé la pole sur tous les nouveaux circuits qui ont été visités par la Formule 1 récemment, et il l'a encore fait donc cette fois-ci. Alors, est-ce que la victoire va être à la clé derrière? C'est clair que les deux pilotes pourraient très bien aborder le dernier Grand Prix à égalité de points si Hamilton est en mesure de refaire les 8 points qu'il a de retard. Alors, au nombre de victoires, pour le moment, c'est à l'avantage de Verstappen, qui compte 9 victoires, 7 victoires pour Lewis Hamilton pour le moment.
Ça peut se jouer à rien, ce championnat du monde de Formule 1. On a suivi ça toute la saison. C'est presque la fin. Ça peut être la fin si jamais donc Max Verstappen remporte 18 points de plus que Lewis Hamilton. Voilà, la donne est claire pour le Hollandais, et qui va partir derrière deux Mercedes.
Alors, on va rappeler que sur ce circuit, évidemment, il n'y a aucune expérience en matière de pneumatique. Tous les pilotes, ou presque parmi les 10 premiers, se sont qualifiés avec les pneumatiques médium. Ça veut dire qu'on devrait s'arrêter entre le 19e et le 25e tour sur les 50 tours que va compter la course. Il y a Lando Norris seulement avec sa McLaren qui est 7e, qui lui part en soft. Et puis derrière, eh bien, Ricardo, qui a le choix des pneumatiques, qui part 11e sur la grille, a choisi les pneumatiques dures. C'est également le cas de Carlos Sainz avec la Ferrari, qui a connu ce gros accident. Carlos qui part seulement 15e, et puis Sébastien Vettel 17e. A signaler que Charles Leclerc lui aussi était sorti très fort dans la deuxième séance d'essais libres. On a refait sa Ferrari, s'est qualifié merveilleusement 4e sur la grille. Je vais rappeler cette grille de départ alors que les pilotes sont dans le tour de formation maintenant. Lewis Hamilton, donc nouvelle pole position, c'est la 5e de la saison pour lui, la 103e de sa carrière de pilote de Formule 1. Il aura à ses côtés son équipier Valtteri Bottas, les deux Mercedes, devant la Red Bull, la moteur Honda de Verstappen, la Ferrari de Charles Leclerc, je viens de le dire, et puis troisième ligne avec l'autre Red Bull Honda, celle de Sergio Perez, avec Pierre Gasly toujours extrêmement brillant avec son AlphaTauri à moteur Honda, quatrième ligne composée de Lando Norris, je viens de l'évoquer, avec la McLaren et les pneumatiques soft. Attention, il devrait prendre un très bon départ, Lando Norris, il est du bon côté de la piste et il a les pneus soft. Et puis Yuki Tsunoda, le japonais, très rapide sur ce nouveau circuit avec l'autre AlphaTauri, Esteban Ocon, et neuvième, le français avec son Alpine, Giovinazzi, excellent qualifié Piquet 10e. Et puis on trouve ensuite Ricciardo et Raikkonen sur la 6e ligne, Alonso et Russell sur la 7e, Sainz et Latifi sur la 8e, Vettel et Stroll sur la 9e, Schumacher et Mazepin ferment la marche de ce Grand Prix sous haute tension. Je le répète, on a vu beaucoup d'accidents en Formule 1, en Formule 2, pardon. C'est un circuit très dangereux, un circuit où les pilotes manquent totalement de visibilité, et on peut d'ailleurs se poser des questions quand on voit qu'on est en train d'effectuer des travaux à Spa-Francorchamps dans le rayon de l'eau rouge au prétexte que les pilotes n'ont pas de visibilité au sommet de la montée. Et bien là, il y a tout un enchaînement, les pilotes, alors ils se régalent, hein, parce que c'est un circuit rapide, c'est un circuit très dangereux. Encore une fois, on est entre les rails, la moindre erreur, et on l'a vu notamment avec le Charles Leclerc qui a tapé assez fort, peut se solder par une voiture qui est renvoyée sur la piste d'ailleurs. Le départ dans quelques secondes maintenant de ce Grand Prix, 50 tours à parcourir ici sur ce tracé de Jeddah.
Est-ce que Max Verstappen va savoir gérer la pression? C'est une des questions bien sûr que l'on va se poser. Est-ce que les Mercedes vont unir leurs forces, hein, Hamilton et Bottas, pour justement continuer à croire au titre? Le départ bien sûr en direct de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Je vous rappelle qu'il y a 1-0 pour Strasbourg à Nice. On y retournera juste après le départ de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jean-Luc.
Voilà, les pilotes sous les ordres du starter. Maintenant, les derniers vont s'immobiliser sur la grille de départ. Ensuite, on va allumer les feux dans cette nuit d'Arabie Saoudite. C'est le premier Grand Prix à se disputer sur ce tracé de Jeddah qui a été terminé donc très rapidement. Et on va partir donc pour ce Grand Prix. 50 tours, je le répète, à parcourir dans ce Grand Prix. On va allumer maintenant les feux puisque les pilotes sont immobilisés. Le drapeau vert est brandi en fond de grille. On allume les feux rouges maintenant et c'est parti avec un très bon départ de Lewis Hamilton, couvert par Valtteri Bottas. Il essaie de s'infiltrer à l'extérieur Verstappen, mais ça ne passe pas. Les deux Mercedes comme à la parade devant, avec Charles Leclerc qui parvient également, après avoir été à la lutte avec Pérez, à conserver la quatrième position devant Pierre Gasly, sixième, et puis Lando Norris qui a réussi à se glisser justement à l'instant devant Esteban Ocon qui a pris un excellent départ également. Esteban qui est remonté de la deuxième à la septième position. Les deux Mercedes pour le moment de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, devant la Red Bull Honda de Max Verstappen, devant Charles Leclerc et Sergio Pérez. Ocon, je l'ai dit, a pris un excellent départ, et puis pour le moment, eh bien, ça s'est bien passé derrière, pas de collision heureusement. Tout le monde a été raisonnable dans ce premier tour jusque là, avec Lewis Hamilton qui évidemment est en train de creuser immédiatement un écart assez important sur Valtteri Bottas, qui va protéger son leader en essayant de retenir Max Verstappen le plus longtemps possible.
Ah, mais ça va être ça qu'il va falloir suivre bien sûr, le duel dans un premier temps Bottas-Verstappen. Est-ce que Bottas va faire le jeu d'Hamilton? A priori oui, hein, c'est ce que tu disais. Bottas va servir les intérêts de son leader.
Ah ben c'est très clair, hein, depuis le départ on a vu d'ailleurs Lewis Hamilton chaudement féliciter Valtteri Bottas pour cette deuxième position lors des qualifications. Il a rappelé que c'était le meilleur équipier qu'il avait jamais eu en Formule 1. On rappelle également qu'il va changer d'équipier justement pour la saison 2022, puisque c'est le jeune et très brillant britannique George Russell qui avait d'ailleurs assuré l'intérim de Lewis Hamilton en fin de saison dernière, et qui était même en mesure de triompher dès son premier Grand Prix pour Mercedes au détriment de Bottas. Et comme par hasard, on avait commis deux erreurs stratégiques très étonnantes de la part de Mercedes. Bref, ça avait privé le pauvre Russell de la victoire dans ce Grand Prix, mais ça n'est que partie remise et il a le talent pour triompher bientôt. Voilà, Lewis Hamilton qui compte maintenant une seconde une d'avance sur Valtteri Bottas. Max Verstappen est toujours troisième de ce Grand Prix devant Leclerc, et puis Pérez et Norris qui ont pris l'avantage sur Esteban Ocon. Pierre Gasly malheureusement qui commence à reculer dans ce classement, lui qui s'était magnifiquement élancé depuis la sixième position. Eh bien, Pierre est actuellement 8e. Il a été passé successivement par Lando Norris et par Esteban Ocon, alors que l'écart se creuse évidemment entre les deux Mercedes et Verstappen. Et il est à portée de DRS. Bientôt, la direction de course va autoriser à l'issue de ce deuxième tour l'utilisation du DRS. Alors, je rappelle qu'ici, à Jeddah, eh bien, cet artifice, on le sait, qui permet d'effacer une partie de l'aileron arrière et de gagner une douzaine de kilomètres heure en vitesse de pointe, il peut être utilisé à 3 reprises sur ce tracé. On avait vu que c'était une arme redoutable pour Lewis Hamilton dans sa remontée lors du Grand Prix du Brésil. Est-ce que ça va permettre notamment à Max Verstappen de se rapprocher de Valtteri Bottas et de prendre l'avantage? Eh bien, nous allons le savoir très vite, puisque la direction de course va autoriser justement l'utilisation, alors que du côté de Stroll et de Russell, apparemment, on s'est un petit peu frictionné. La direction de course se réserve le droit de revenir sur cet incident un petit peu après. Je vois que Stroll est actuellement 16e de ce Grand Prix pour le moment.
Hamilton devant Bottas et Verstappen, voilà le trio de tête pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. On y revient dans un instant avec toi, Jean-Luc, bien évidemment. Un petit tour aussi par l'Alliance Rivière. Le temps, le score, messieurs Clément et Timothée, entre Nice et Strasbourg.
11 minutes à jouer, encore 11 minutes à pousser pour les Niçois, menés 1-0, 11 minutes à tenir pour les Strasbourgeois grâce à Ludovic Ajorte qui sont en train de faire une belle opération en menant pour l'instant sur la pelouse du 4ème de Ligue 1.
On vient dans un instant pour suivre les 10 dernières minutes de ce match de la 17ème journée de Ligue 1 et bien sûr le Grand Prix de Formule 1, sans oublier le handball entre la France et la Slovénie. On trouvera Nicolas Pollorsi dans un instant. À tout de suite.
RMC Intégral Foot,
François Pinet.
18h40,
but du break, ça fait 2-0 en faveur du Racing Club de Strasbourg avec cette action plutôt confuse venue de la droite, le centre en retrait, la tentative de frappe de Persic et ce ballon qui est dévié d'une matière par Diallo me semble-t-il qui arrivait à la surface de réparation, absolument pas en position de hors-jeu, et c'est bel et bien Diallo qui vient inscrire son 8ème but cette saison. Ça fait 2-0 en faveur de Strasbourg face à Nice. Nice poussait mais les Niçois ne pourront que s'en prendre à eux-mêmes. Ils n'ont pas joué en première période et ils se sont offerts au contre en deuxième.
J'oublie le coup là, de la laisser passer.
Thomasson, il est suédois maintenant.
Ouais.
Bah, et puis Habib Diallo libre de tout marquage hein, également, c'est à souligner hein, sur cette opportunité. Jean-Pierre Todibo qui est loin, très très loin au marquage, et il laisse l'attaquant strasbourgeois de cette sublime matière eh bien, faire le break pour les Alsaciens. C'est vrai, comme Timothée le disait, on a senti cette équipe de Nice se révolter un petit peu en cette fin de match, emmenée par un homme à qui tout bon, réussit ou presque ces dernières semaines.
Contre Lyon, c'était pareil à la 82e minute.
Exactement,
c'est une spécialité.
Les exploits ne font pas les jours.
Attention avec ce centre, justement, venu de la gauche de la part des Niçois. Voilà. Et ce ballon récupéré par Attal. Attal dans la surface. Attal qui va buter sur un Matsels imbattable. Le mur, Matsels, le Belge, là, qui encore une fois s'est interposé. En tout cas, coach, tu soulignais l'importance des duos dans les équipes et dans les compositions d'équipe. Eh bien, Ajorque Diallo, à eux deux, c'est 17 buts depuis le début de la saison. Si l'on ajoute les passes décisives, ça les rend décisives.
Et si on rajoute des fois quand ils sont fatigués que Gamero il peut jouer aussi un petit peu, ça fait un trio pas mal.
C'est pas mal, hein. Bon, y a beaucoup d'équipes de Ligue 1, je pense, qui aimeraient avoir cette
2-0 à la 83e possibilité pour les Niçois avec ce ballon sur le côté droit qui va être dégagé par la défense strasbourgeoise. 2-0 en faveur de Strasbourg face à l'OGC Nice.
Belle équipe de Strasbourg et Nice qui va tout droit vers une troisième défaite d'affilée à domicile. On suit bien sûr la fin de la rencontre avec vous messieurs, mais un détour par le handball, c'est la mi-temps. France-Slovénie, championnat du monde, Nico Paolorsi.
C'est la mi-temps et les Bleus sont devant très sereinement, hein. L'équipe de France qui mène de 5 buts, 13-8. Les Françaises ont été très costauds en défense notamment.
T'es en boîte de nuit là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?
C'est un peu ça. On n'est pas loin de Barcelone, hein, donc c'est négociable.
Attention parce que là il se passe la poisse bonjour Habib Diallo qui va pouvoir dégaler parfaitement le piqué pour le Racing Club de Strasbourg et Julien Stéphane l'entraîneur qui vient sortir de sa zone technique, mettre un bon coup de poitrine à son attaquant Ludovic Ajorque sorti il y a quelques minutes. La démonstration de la joie, l'heureux strasbourgeois aujourd'hui. C'est ce que doivent représenter les 137 spectateurs venus aujourd'hui à l'Allianz Riviera. Ils sont en train de carboniser ces Niçois, ils sont en train de mettre KO les hommes de Christophe Galtier. Magnifique décalage d'Aviv Diallo pour Adrien Thomasson, le piqué somptueux devant Walter Benitez. Comment peut-on être aussi irréprochable face au Paris Saint-Germain et s'écrouler totalement 3 jours plus tard? Rien ne va plus à domicile. L'Allianz Riviera est ô combien compliqué pour ces Aiglons. 3 défaites de suite à domicile qui se profilent
pour le GC Nice.
C'est incroyable cette équipe strasbourgeoise qui repasse deuxième meilleure attaque de Ligue 1. 34 buts marqués pour les Strasbourgeois derrière le Paris Saint-Germain.
Non, mais c'est surtout qu'il y a un classement quand même magnifique. N'oublions pas, je crois qu'ils perdent les 3 premiers matchs de la saison.
Et Strasbourg est 6ème actuellement avec cette victoire qui se profile 3-0.
La finition de Thomasson, elle est à montrer dans les écoles magnifique. Parce qu'il arrive lancé et il arrive, vous savez, ces petites balles piquées où il faut arrêter son élan, arrêter l'ensemble de son corps pour laisser juste la cheville soyeuse, souple, mettre passer le pied sous le ballon.
Style. Toi, c'est plus grosse frappe.
Non, mais moi, tu l'as retrouvée à Mandelieu, moi, la balle.
Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est magnifique ce qu'a fait Thomas.
Il y a des supporters niçois et ils sont nombreux qui commencent à partir de cette enceinte maudite de l'Allianz Riviera. Trois défaites consécutives à domicile, ce n'était jamais arrivé sans marquer de but. Ce n'était jamais arrivé à l'OGC Nice dans son histoire et c'est une passe compliquée. Ô combien difficile cette période-là pour les Niçois qui sont irréguliers depuis de nombreux mois désormais. 86e, 3-0.
Avant la trêve.
Nice, ça sera contre, que je dise pas de bêtises, Rennes. À Rennes et ensuite Nice-Lens. Voilà pour le calendrier niçois.
Ah ouais, d'accord.
À Rennes et face à Lens. 3-0 donc pour Strasbourg à Nice. On va aller à la Formule 1, Grand Prix d'Arabie Saoudite. On a vécu tout à l'heure le départ en direct avec Jean-Luc Roy. Jean-Luc, est-ce que c'est toujours le même trio de tête?
Et oui, François, pour le moment, pas de changement. 7 tours couverts par Lewis Hamilton, le leader, qui d'ailleurs a signé le meilleur tour en course en 1 minute 33 secondes 260, a rapproché du 1 27 511. Donc on est environ 6 secondes des temps réalisés en qualif. Valtteri Bottas est deuxième avec l'autre Mercedes à 1 seconde 7. Et puis Max Verstappen qui évolue à 1 seconde et demie.
Kevin Gamero qui se présente face à Walter Benitez. Il est touché dans la surface de réparation. Pas de pénalty pour Jérémy Pignard. Les Niçois vont se relancer. Fausse alerte, mais toujours 3-0 pour Strasbourg à Nice.
Vas-y Jean-Luc.
Bon, il y a peut-être au pénalty.
Verstappen donc à 1 seconde et demie de Bottas et donc à 3 secondes 3 d'Hamilton. Il faut dire que pour le moment, eh bien, Hamilton déroule sa partition sans aucun problème puisqu'il est protégé par son équipier. Apparemment, Max Verstappen, malgré l'utilisation du DRS depuis 5 tours maintenant, eh bien, n'est pas en mesure de se rapprocher. Charles Leclerc est 4e avec la Ferrari devant Perez, Norris, Ocon toujours 7e, Ricardo est 8e, Pierre Gasly malheureusement, son Alfa est moins efficace en course, il est 9e devant Giovinazzi. Carlos Sainz est remonté de la 15e place à la 11e avec la Ferrari. Fernando Alonso est 12e pour le moment.
Et voilà la Formule 1 avec ce trio de tête et pour l'instant Lewis Hamilton qui ne lâche rien dans son duel avec Max Verstappen. Le handball, retour par le handball avec les Françaises face à la Slovénie, championnat du monde, Nicolas Paul-Orsi.
Oh, c'est toujours la mi-temps. Il reste 2 minutes 30 avant que ça reprenne. On mène de 5
buts. Effectivement, c'est toujours
Kevin
la mi-temps.
Gamero, resté sur la balle. Kevin Gamero
qui va buter sur Walter Benitez. Oh, ils sont tout proches du chaos. Enfin, le chaos, il est déjà bien entamé parce qu'il y a 3-0 en faveur des Strasbourgeois. Et là, Gamero qui a faussé compagnie à la défense niçoise qui s'est présenté seul face à Benitez mais qui a un tout petit peu trop poussé son ballon sur sa dernière touche de balle.
Oui, non, mais j'étais sur le handball parce que je voyais le replay des meilleures actions. C'est pour ça, Nico. Je pensais que
c'était. Ah oui, c'est ça.
Voilà, désolé.
Oui, quand c'est au ralenti, François. Ça, voilà, c'est un replay.
Ah, d'accord, je te laisse en boîte de nuit alors.
Hein. Allez, à tout de suite.
Allez, à plus. Nice Strasbourg, effectivement, on va vivre les dernières minutes avec vous, messieurs Clément Brossard, Timothée Mémon, la démonstration strasbourgeoise à l'Allianz Riviera.
Ouais, clairement, il reste 2 minutes de jeu dans le temps réglementaire. 3-0 pour les Strasbourgeois avec Ayork donc qui marque à la 21e minute. Le break fait par Diallo à la 83e, Thomasson à la 86e et Nice est sous l'eau dans cette partie. On n'aura jamais senti les aiglons peut-être 10 minutes. Allez, avant le deuxième but, tenter de faire la différence face aux Strasbourgeois, mais les Alsaciens auront été clairement au-dessus de ces aiglons en grande difficulté. On pensait que la machine défensive était remise en route après cette démonstration défensive face au Paris Saint-Germain et ce 0-0 obtenu au Parc des Princes il y a 3 jours, et bien la machine s'est enrayée à nouveau et 3 buts concédés, ça ne va pas plaire clairement à Christophe Galtier. On verra ses propos en conférence de presse, mais on imagine déjà la mine de l'entraîneur niçois.
Et un joli match à venir à Rennes.
Ouais, ce qui sera d'autant plus compliqué pour ces aiglons qui sont dans une mauvaise passe confirmée. Coup franc à venir pour le GC Nice.
Il a multiplié les grimaces, hein, Christophe Galtier, sur le bord du terrain, avec là le coup franc qui ne donnera rien, à se mordiller les lèvres, à se passer la langue sur les dents. Et ce visage, je le connais par cœur, c'est le visage d'un homme qui boue à l'intérieur, littéralement. Puisque je parle Christophe Galtier, deuxième langue aussi, il faut le savoir. Avec 9 ans de Christophe Galtier à Saint-Etienne, je sais à peu près quand il ment, quand ça va, quand ça va pas. Et là, aujourd'hui, ça va pas du tout. Alors évidemment, là, je devine pas grand-chose, mais je peux vous dire que ça boue surtout. Il y a beaucoup de colère dans la gestuelle, le body language de Christophe Galtier.
Et ballon. Cette semaine, il disait, Christophe Galtier, il va falloir surtout ne pas se relâcher après cette performance face au Paris Saint-Germain. Il se doutait certainement que face à Strasbourg, il y avait l'occasion, après un match plutôt réussi sur sur le plan défensif et bien de lâcher un petit peu sur le plan mental. Il sait que son équipe est jeune, a besoin d'enchaîner, d'avoir beaucoup plus d'expérience notamment. Dante est un homme d'expérience. Il n'était pas présent sur la pelouse au coup d'envoi. Et ça a montré aussi que sans son capitaine, Nice pouvait sombrer. Il est rentré bien trop tard dans cette rencontre alors que Strasbourg avait fait la différence, notamment sur le plan de la confiance. Julien Stéphan, en début de rencontre, je vous disais que j'avais pu échanger avec lui. Lui était très confiant, alors, à l'inverse des Niçois.
Juste avant de vous retrouver pour la fin vraiment de cette rencontre, un petit mot de la Formule 1, puisque Jean-Luc, il y a eu un incident sur la piste.
Ah oui, même un accident, un gros accident pour Mick Schumacher, qui a tapé très fort avec sa Haas, ce qui entraîne évidemment la sortie du drapeau jaune, même du safety car. On en a profité pour deux pilotes, notamment pour Russell et Stroll, pour repasser par la voie des stands et chausser des pneumatiques durs. Évidemment, voilà qui va annihiler normalement l'écart. D'ailleurs, on se prépare chez Mercedes à changer de pneumatique maintenant. On va probablement arrêter Hamilton, je présume. Voilà, Hamilton dans les stands maintenant, le leader, pour changer de pneumatique à l'issue de ce 10e tour et vraisemblablement lui monter des pneumatiques durs. Est-ce qu'on va suivre de la même manière? Oui, c'est le cas pour Bottas également. Verstappen reste en piste. Voilà le coup de stratégie qu'on attendait. Hamilton, Bottas, Leclerc, Perez qui entre dans la zone des stands et Verstappen reste en piste maintenant. Ça veut dire que Verstappen, eh bien, va conserver ses pneumatiques médiums et lui ne va pas repasser par la voie des stands alors que les autres pilotes évidemment vont se retrouver beaucoup plus loin. C'est le cas de Norris également qui avait choisi des pneumatiques soft. Je l'ai rappelé tout à l'heure au moment du départ. Eh bien, on ressort, on va essayer de tenter de terminer ce Grand Prix. Ça va faire long, hein. 40 tours en pneumatique dure pour Hamilton, pour Bottas, je l'ai dit, pour Leclerc et pour Perez notamment, alors que Verstappen reste en piste. Le voilà, un des tournants de ce Grand Prix après 10 tours, à la suite de la sortie donc de Mick Schumacher dans le mur. Apparemment, le pilote est indemne, il parlait avec son équipe, donc la voiture est bien abîmée, hein. Ça va prendre pas mal de tours maintenant pour enlever le safety car.
Le pari de Verstappen sera-t-il gagné? On va suivre ça bien sûr avec toi, Jean-Luc, au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Retour au foot, Allianz Riviera, toujours 3-0 pour Strasbourg à Nice. Il reste une petite minute à jouer, Clément et Timothée.
Ouais, moins d'une minute à jouer. Et là, une tentative désespérée de Justin Kluivert à plus de 35 mètres qui a tenté sa chance, qui a mis ce ballon très loin, très haut.
Ouais, là, tu viens de dire le bon terme, désespéré.
Dans les ultras de la Brigade Sud. En tout cas, ce sera un 6 mètres pour Matsels. 3-0 en faveur de Strasbourg face à des Niçois méconnaissables. Strasbourg, en revanche, continue à être l'équipe à suivre, l'équipe plaisante de cette partie de saison, de cette deuxième partie de première moitié de saison, parce que vraiment il y a des choses intéressantes, notamment une certaine solidité défensive et une qualité offensive indéniable. On en a parlé tout à l'heure et c'est terminé, victoire 3-0 de Strasbourg sur la pelouse de Nice. Les sifflets de l'Allianz Riviera qui étaient déjà quasiment vides au moment du coup de sifflet final, à l'exception des ultras. Une victoire qui va faire mal aux Niçois. Il va falloir réagir et ils devront le faire face à des adversaires importants, à savoir Rennes et Lens. Ce sera les deux derniers matchs de cette première moitié de saison pour le TC Nice.
Strasbourg-Marseille aussi qui est pas mal,
qui sera intéressant à suivre. La petite poignée de main entre Christophe Galtier et Julien Stéphan et l'entraîneur niçois qui est vite rentré au vestiaire, la tête basse. Ça va gronder dans le vestiaire des Aiglons. Ils n'y sont plus du tout, les Niçois, très inconstants depuis quelques semaines désormais. Strasbourg écrase Nice 3-0.
Merci beaucoup Clément, merci Timothée, bonne soirée à vous du côté de Nice. Strasbourg est 6e ce soir avec 26 points, 1 point des Niçois, 4e avec 27 points. Coach Courbis, qu'est-ce que tu retiens? La défaite niçoise, la 3e d'affilée à domicile, ou la continuité pour Strasbourg qui marque et qui continue de gagner?
Un petit peu les deux, mais je suis quand même surpris compte tenu de l'effectif, compte tenu des qualités de Christophe Galtier, que l'on puisse, sans marquer de but, maintenant le football est décidément capricieux, et que l'on puisse perdre 3 fois à domicile sans marquer de but. Alors sincèrement, on s'amuse à faire les paris. Tu m'aurais, avant ces matchs-là, posé la question, je pense que je me serais mis à rigoler, et pourtant c'est le cas.
Voilà pour cette victoire donc strasbourgeoise à Nice, 3-0. On suivra bien sûr la réaction de Christophe Galtier ce soir sur RMC. Je vous rappelle aussi l'info, Claude Puel n'est plus l'entraîneur de Saint-Etienne et on a deux noms qui pourraient le remplacer prochainement, Pascal Duprat ou David Guillon. Et puis bien sûr on va suivre la Formule 1 avec Max Verstappen qui a pris les devants lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite devant Hamilton et Bottas. C'est Simon Dutin qui va nous faire vivre cet avant-dernier Grand Prix de la saison. Salut Simon.
Salut François, évidemment on ne va pas perdre de temps, on va rejoindre très rapidement Jean-Luc Roy pour vivre l'avant-dernière étape de cette passionnante saison de Formule 1. Max Verstappen qui peut, on rappellera évidemment les différents scénarios, être sacré champion du monde pour la première fois de sa jeune carrière. Mais attention au patron Lewis Hamilton, il n'a certainement pas dit son dernier mot. On a également un œil sur le handball France-Slovénie, les Françaises qui sont bien parties face à l'adversaire le plus coriace dans ce groupe A. Et puis évidemment on a les yeux partout, il y a du Super G, les quiz, les Françaises ont-elles une chance? Ça va être compliqué. Mais bon, la Formule 1 dans un instant sur RMC, à tout de suite.
RMC Intégral Sport.